Je vois qu'il y a les enfants ici, donc j'espère que vous allez pouvoir écouter attentivement aussi ce message. Je sais que certains ont peut-être déjà parmi vous fini leur liste de cadeaux, ils ont déjà envoyé leur liste à leurs parents. Peut-être que pour d'autres, c'est un peu le stress des derniers jours, on ne sait pas forcément quoi prendre, quoi demander. Alors pour préparer ce message, je suis allé un peu, quand je dis un peu, c'est longuement, sur Internet, pour essayer de trouver les idées de cadeaux à offrir cette année. Et j'ai trouvé tout un tas de sites comme cela. Les 6 règles d'or du cadeau parfait. C'est qu'un exemple parmi les dizaines et les dizaines de sites que j'ai essayé de regarder et qui nous donnent tous, selon leur avis, l'idée d'un cadeau parfait. Et toutes ces listes sont indifférentes, il y a des points un peu différents, mais pour autant, j'ai noté 2 points dans ces listes qui se regroupent et qui apparaissent à peu près pratiquement à chaque fois. Le premier point d'un cadeau parfait, c'est un cadeau qui est personnalisé, qui soit au plus proche des passions, des goûts, des attentes de la personne à qui on veut offrir ce cadeau. Un cadeau qui lui correspond, un cadeau personnalisé. Et le deuxième point qui se retrouve dans la plupart, si ce n'est la majorité de ces listes, c'est un cadeau qui est durable. Alors c'est un peu en plus à l'encontre de ce qu'ils disent, parce qu'après ils mettent des suggestions, et en fait on voit dans les cadeaux qu'ils proposent, que ces cadeaux, ce n'est pas des cadeaux si durables. On parle de rasoirs, on parle de cosmétiques, on parle d'outils électroniques, on parle de cartes Pokémon, de poupées Barbie. C'est les cadeaux qui revenaient le plus souvent. Si certains de ces cadeaux durent quelques jours, quelques semaines, d'autres peut-être quelques années, ce n'est pas la vraie définition de durable, parce que ces cadeaux ne durent pas. Alors c'est quoi un cadeau parfait? Un cadeau personnalisé, un cadeau durable? Si je vous demandais à vous, c'est quoi pour vous le cadeau parfait? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, le sujet de ce matin, c'est le suivant. Noël, un cadeau semblable à nul autre. Aujourd'hui, on va parler du cadeau de Noël. Et on va continuer ce qu'avait commencé François il y a 2 semaines en parlant de ce texte des mages. Et on va voir que ces mages, ils sont venus offrir eux aussi des cadeaux. Des cadeaux à un nouveau-né. Mais surtout, ce que je vous propose qu'on puisse voir ensemble, c'est que derrière ce récit des mages, un récit qui est assez connu en général, qu'on puisse diriger nos regards vers un plus grand cadeau encore. Un cadeau semblable à nul autre. À savoir celui de la venue du roi des Juifs. Et on va voir que ce cadeau, justement, ce n'est pas un cadeau personnalisé, c'est un cadeau qui est adressé à tous, pour tout le monde. Et surtout, ce n'est pas un cadeau qui va durer que quelques jours, quelques semaines, quelques années peut-être, mais un cadeau qui peut changer une éternité tout entière. Un cadeau qui transforme à jamais. Et donc, on puisse avoir en tête ces deux points-là pendant que je vous propose qu'on puisse lire le texte. Donc, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Donc, je vais l'afficher, mais n'hésitez pas à prendre vos Bibles si besoin. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voici pour la parole de Dieu. Je vais prier et on va pouvoir voir ensemble ce que ce texte a à nous dire. Oui, Père, c'est vrai, on connaît bien cette histoire, on l'a peut-être déjà entendue plusieurs fois. Cette histoire des mages, cette histoire de l'étoile. Mais on veut prier qu'une fois encore, tu puisses nous inspirer par ce texte, tu puisses nous façonner par lui, et que tu puisses nous permettre de nous rappeler de ce message extraordinaire de Noël. Alors ouvre nos cœurs à ce qui va être dit, que tu puisses nous en apprendre plus de toi et qu'on puisse, comme ces mages, venir te louer et t'adorer. Amen. Noël, un cadeau semblable à nul autre. Et je vous propose, dans un premier temps, qu'on puisse voir que Noël, c'est une invitation. J'ai peut-être dû une petite erreur tout à l'heure. Alors cet évangile, il faut savoir que des quatre évangiles, c'est le seul à mentionner cette histoire des mages. Il ne mentionne même pas les bergers, comme le fait l'évangile de Luc. D'ailleurs, c'est comme si l'auteur, il voulait absolument pas qu'on loupe cette histoire. Si on prend le chapitre d'avant, le chapitre 1, on voit 7 versets qui sont alloués à la naissance de Jésus. Versets 18 à 25, 7 versets. Et là, on a 12 versets qui nous parlent de l'histoire de ces mages. On a même plus de versets pour parler de ces mages que pour parler de la naissance de Jésus. Donc ça nous montre l'importance de ce texte. Pourquoi l'auteur l'a mis ici? Jésus est né. Alléluia, on l'a chanté tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça change pour ces mages? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est pour ça que ce texte est si important. L'autre curiosité, en fait, c'est qu'il faut savoir que l'auteur de cet évangile, il est d'origine juive. C'est un ancien collecteur d'impôts. C'est donc quelqu'un qui n'était pas très bien vu hein, à l'époque. Savoir, les collecteurs d'impôts, c'est ceux qui récupéraient la taxe romaine, mais qui en même temps récupèrent une partie de la taxe pour eux-mêmes. Et donc, c'était des gens mal vus. C'était des collabos. Et on sait du coup que la première cible de cet évangile, si on continue à lire son récit, bah, c'est les Juifs. Alors pourquoi les premières personnes qui sont mises en avant dans un évangile pour les Juifs, c'est des mages qui viennent d'Orient, comme nous dit ce verset 2. Voici des mages venus d'Orient. Alors c'est vrai que dans la conception actuelle, on imagine un peu ces mages comme des héros. Souvent on les appelle les rois mages. Alors c'est souvent à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se rappelle de la fameuse chanson de Sheila, comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger. On a aussi ce film des Inconnus, très bon film et assez drôle d'ailleurs, je vous recommande. Mais voilà comment on les considère, des rois mages. Il suffit juste de mettre le mot mage sur internet, alors c'est écrit assez petit, mais voilà ce qui revient le plus sur Google, roi mage. Autre chose qui revient, c'est d'abord le nombre 3. C'est un peu aussi souvent le nombre qu'on pense qu'ils étaient, notamment dû au nombre de cadeaux, alors que rien ne nous dit qu'ils étaient 3. Si on regarde d'ailleurs les décorations dans la salle, on voit qu'ils étaient 3. Rien ne nous le dit. Je ne vais pas m'attarder plus sur ce sujet, parce que finalement, le nombre qu'ils étaient, ce n'est pas ça qui est important. On les imagine comme des rois. Alors qu'en fait, c'est tout autre. Ce ne sont pas des rois. Ce sont ce qu'on appelle des astrologues. Ce sont des savants. À l'époque, c'est ce que l'on appellerait des charlatans. Ce sont des étrangers, des Perses. Si les Juifs, eux, s'appuyaient sur la théologie, donc ils s'appuyaient sur Dieu, ces mages, eux, ils s'appuyaient sur l'astrologie, sur les astres, sur les étoiles. Et au vu des Juifs, ce que faisaient donc ces personnes-là, ces mages, c'était des pratiques occultes. Avec le groupe de jeunes actifs, il y a quelques semaines, on a eu un partage sur les médiums, sur les voyants et autres. Et on avait vu ce verset dans Deutéronome 18 qui nous disait quoi? Que l'Éternel, il a en abomination ces personnes-là. Il a en abomination ces devins, ces astrologues, ces augures, ces magiciens, ces enchanteurs. Il a en abomination ceux qui écoutent les étoiles. C'est fort, hein, le mot quand même, abomination. Mais voici comment Dieu voit ces gens-là, qui basent leur vie non sur eux, sur Dieu, mais sur les astres. Et donc c'est bizarre finalement, lorsqu'on y réfléchit, de commencer cet évangile par parler de ces personnes-là. Le Messie tant attendu vient de naître. Et quelles sont les personnes qu'on attend à voir ? Les rabbins, les spécialistes de la loi, les scribes, les sacrificateurs. Mais non, qui est-ce qu'on voit ? On voit ces parias, on voit ces astrologues, on voit ces mages étrangers. Des gens riches et puissants, des gens de la haute sphère, de là où ils viennent, qui pourtant, par la foi, vont faire des milliers de kilomètres pour aller adorer et se prosterner devant ce nouveau-né. C'est justement là la première chose qu'on peut tirer de ce texte, la première facette de ce cadeau semblable à Minol de Nonêtre. C'est un événement qui va marquer d'ailleurs toute la dynamique de cet évangile. Un évangile qui va nous montrer que les derniers seront les premiers, que des pêcheurs, donc le métier, hein, pêcher des poissons, vont devenir des disciples, que des bourreaux et des persécuteurs de chrétiens vont devenir des grands missionnaires, que des collecteurs d'impôts, comme l'auteur, vont devenir des enseignants, et que l'adoration, où est-ce qu'elle va venir l'adoration ? Elle va venir de ces perses, chasseurs d'étoiles. Et c'est ça la bonne nouvelle renversante de Noël. Ça commence avec eux. Ça commence avec ces parias, avec ces étrangers, avec ces charlatans. C'est eux les premiers destinataires de cette invitation, les premiers bénéficiaires de cette grâce. Et on a un avant-goût de la conclusion elle-même de cet évangile. Le dernier verset de l'évangile nous montre « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On a là, au chapitre 2, un avant-goût de comment ça se met en place. Et c'est la première leçon qu'on peut tirer de ce texte. Ceux qui viennent à Christ, ils n'ont pas besoin d'avoir un bon passeport. Ils n'ont pas besoin d'avoir la bonne nationalité, la bonne profession, la bonne famille. Ce n'est même pas une question de prénom. Non, ils ont juste besoin de répondre à cette invitation qui leur a été donnée de manière imméritée, au moyen de ce signe dans le ciel. Cette histoire nous montre donc toute l'étendue de la grâce de Dieu, toute l'étendue de ce message de Noël. Personne n'est trop loin, personne n'est trop distant pour venir le rencontrer. Un pasteur américain qui s'appelle Tony Evans va nous dire ceci. Dieu, je vous l'ai mis en anglais parce qu'elle existe qu'en anglais, Dieu veut te rencontrer où tu es pour t'amener là où il veut que tu ailles. Il veut te rencontrer là où tu es pour t'emmener là où il veut que tu ailles. Qu'importe ton passé, qu'importe ce que tu as fait dans ta vie, qu'importe tes actions, tu peux, comme ces mages, être au bénéfice de sa grâce. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, en 2021, à l'aube de Noël ? Que ce soit par la grandeur de sa création, que ce soit par le témoignage des chrétiens, par des signes et des miracles, de temps en temps aussi, Dieu nous lance une invitation. Il nous invite à visiter ce roi. Dieu invite quiconque à le suivre. Ce n'est pas un cadeau personnalisé en fonction des goûts et des attentes, mais un cadeau qui s'adresse à tous. La question est, sommes-nous, comme ces mages, prêts à quitter notre réconfort et à laisser de côté nos croyances pour répondre à cette invitation divine ? Eux, ils ont fait des milliers de kilomètres dans le désert, où il n'y avait pas de Uber ou d'autres manières de se déplacer qu'en chameau, dans un pays où ils ne seraient même pas les bienvenus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus le voir, ils sont venus à la recherche de cet enfant, de ce roi des Juifs. Est-ce que, comme ces mages, nous sommes prêts, nous aussi, à venir à sa rencontre, à venir pour l'adorer ? Rappelons-nous de ce cadeau, qui n'est pas un cadeau personnalisé, mais un cadeau qui s'adresse à tous. Deuxième chose qu'on va voir, c'est que si Noël est une invitation, Noël c'est également une révélation. Les mages, on nous dit qu'ils ont suivi cette étoile. Et où est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés à Jérusalem, la capitale. Alors déjà, ça nous montre qu'il ne faut pas s'imaginer au début cette étoile, ce signe, comme un grand sorte de faisceau lumineux, comme un spot dans un stade ou dans une salle de spectacle qui leur disait exactement la position à suivre. Non, c'était plus comme une sorte de direction. Et donc, où est-ce qu'ils arrivent? Là où devait potentiellement naître le roi d'Égypte, à la capitale, à Jérusalem. Sauf que, qu'est-ce que nous dit le texte? Spoiler alert, il n'y était pas. Il n'était pas à Jérusalem. Alors tout ce que ça produit finalement, leur arrivée, c'est que ça produit de l'effervescence, t'as le roi Hérode et toute la ville qui est troublée. Et ce qui nous conforte de dire qu'ils n'étaient peut-être pas trois personnes, parce que ça fait bizarre que trois personnes arrivent à produire de l'émulsion dans toute une ville entière, aussi grande que Jérusalem. Alors finalement, si le roi n'est pas à Jérusalem, comment vont-ils faire pour le trouver? Et bien, ce que va faire Hérode, c'est qu'il va appeler les sacrificateurs, les scribes, ceux qui connaissent parfaitement la loi. Ceux qui savaient parfaitement ce que les prophéties de l'Ancien Testament disaient, d'où allait naître cet enfant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On leur demande, et paf, c'est comme si de tac au tac ils ont la réponse. Ils vont répondre, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Où viendrait naître ce roi? À Bethléem. Et donc ça, c'est un texte de l'Ancien Testament qu'on peut trouver dans Michée, au chapitre 5, verset 1. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe ici? L'étoile, le signe, ce miracle dans le ciel, ça a permis à ces mages d'arriver à Jérusalem. Ça a été suffisant pour les mener à la capitale. Mais il a fallu la parole de Dieu pour les mener à Jésus. Le signe les a menés au peuple de Dieu, mais seule la Bible, seule la parole de Dieu les a menés au Fils de Dieu. Et avant de trouver la conclusion qu'on peut avoir tout ça, je voulais vous partager l'histoire de cette personne-là, qui s'appelle John Smith. Il y a quelques années, en 2018, on a eu une histoire sur sa vie qui a été produite au cinéma, qui s'appelle Breakthrough. Alors cette histoire, très rapidement, c'est un adolescent qui, en hiver, va jouer au basket sur un lac gelé, quelle idée, et qui, malheureusement, va tomber sous la glace. La glace va se refermer sous lui, donc il va rester piégé sous la glace. Il va y rester pendant près de 15 minutes. Les pompiers vont arriver, tant bien que mal, ils vont essayer de le récupérer sous la glace et l'emmener à l'hôpital, peu confiant de l'issue. Les médecins vont effectuer toutes les manipulations nécessaires, etc., pour faire battre à nouveau le cœur de cet enfant. Et alors que ces médecins, ces docteurs, allaient annoncer la mort de John Smith, sa mère se rue dans sa chambre et se met à prier de tout son cœur, et son cœur se remet à battre. Pas plus de commentaires sur cette histoire, je vous invite à voir le film, si vous en avez besoin, mais ce n'est pas le sujet de cette prédication. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, à l'occasion de ce film, en fait, cet homme, John Smith, a été interviewé par plein de médias. Il lui a demandé, qu'est-ce que ça a changé, cette histoire, dans ta vie? Ce miracle? Qu'est-ce que ça a changé? Et ce qu'il va dire, et j'ai bien apprécié son interview, il va dire, oui, c'est vrai que ce miracle, ça a produit quelque chose en moi. Ça m'a convaincu de la bonté et de la grâce de Dieu. Ça m'a rendu zélé pour lui. Mais ce n'est que quelques années plus tard, et là je le cite, ce n'est que quelques années plus tard à un camp de jeunes, après l'étude de la parole et la prière à Dieu, que j'ai découvert mon appel et que j'ai décidé de le suivre. Ce qui lui a fait donner sa vie à Christ, ce n'était pas ce miracle, mais la recherche de Dieu par sa parole et la prière. Voyez, si les miracles et si les signes attirent notre attention, seule la Bible, seule la parole de Dieu peut nous donner la direction. Tout au long de l'évangile, on va voir des foules suivre Jésus, rechercher du miraculeux, demander des miracles, demander des signes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais prêché sur Luc chapitre 7. On avait vu que Dieu avait autorité sur la mort du serviteur du centenier et du fils de cette veuve. Et on avait conclu en disant que la bonne nouvelle, ce n'était pas que Dieu pouvait guérir tout le monde. La bonne nouvelle, ce n'était pas que Dieu était venu créer un réseau d'hôpitaux. Non, la mission essentielle de Jésus, c'est vers quoi ces miracles pointaient. À savoir qu'il est venu prendre sur lui ce qui nous sépare de Dieu. Notre condition de pécheur, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Afin qu'on puisse être pardonné, rétabli, sauvé. Aux yeux de Dieu, un peu comme ces mages, on est des abominations. Par nos mauvaises pensées, par nos mauvais comportements. Mais lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus ces abominations, il nous voit comme son fils Jésus, pur et sans tâche. Ça revient avec le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos maladies, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, les miracles attirent les foules, mais c'est la parole de Dieu, seule, qui nous fait comprendre qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, et à quel point nous avons besoin de lui. Si les miracles attirent notre attention, la Bible, elle, nous donne la direction. Quel rappel pour nous. Nous aussi, nous recherchons des signes. On recherche du miracle, du surnaturel. Les soirées de guérison, elles sont remplies. Elles remplissent les salles. Mais qu'en est-il des études bibliques du vendredi soir? Qu'en est-il des réunions de prière et des réunions de prière de quartier? Il y a moins de monde tout de suite. Pour trouver Jésus, il ne faut pas le chercher dans le miraculeux. Il suffit simplement de lire sa parole. La révélation de qui est Christ. Alors ne nous arrêtons pas aux signes, ne nous contentons pas d'aller à l'église, là où se trouve le peuple Dieu, mais prenons également du temps pour lire sa parole qui nous révèle la personne du Fils de Dieu. C'est ça la deuxième facette de ce cadeau semblable à nul autre. Une révélation de qui est Jésus et de son besoin de pardon. Alors puissions-nous, dans ces périodes de fêtes qui arrivent, nous aussi prendre du temps pour lire sa parole, pour la méditer et surtout pour la vivre. Noël, une révélation. Ce qui nous amène au dernier point ce matin, à savoir que si Noël c'est une invitation, si Noël c'est une révélation, Noël c'est également une transformation. Parce que voilà qu'après un long chemin, nos mages arrivent enfin auprès de Jésus. Cette fois, on dirait comme si le signe était un peu plus clair et précis que la dernière fois. Et regardez ce qu'il se passe lorsqu'ils arrivent dans cette maison. Notez bien, le mot maison est pas étable, hein, d'ailleurs. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Je rappelle que ces gens-là, ces mages, c'était l'élite d'Orient. Des mages de la plus haute sphère qui côtoient les plus riches, qui sont des conseillers du roi, qui interprètent leurs rêves et des signes dans les étoiles. Ils sont placés sur un piédestal, là où ils viennent. Et là, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui sont placés en haut, ceux qui sont élevés par le peuple? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plier le genou devant ce nouveau-né. Ils ne sont pas arrivés en se vantant, ils ne sont pas arrivés en mettant en avant leur sagesse, leur connaissance, leur talent, leur don, leur prestige. Non, ils sont juste arrivés, ils se sont mis à prosterner et à adorer Jésus. Quelle scène magnifique et quel rappel pour nous. Parce que ce qui compte lors de notre rencontre avec Jésus, finalement, c'est pas nous. C'est pas nous qui compte. Qu'importe qui nous sommes, qu'importe nos compétences, qu'importe nos dons, qu'importe nos actes, qu'importe nos bonnes actions également, ce qui compte, c'est qui est Jésus, c'est qui il est lui et ce qu'il a accompli pour nous. Sur le blog Tout pour sa gloire, un blog chrétien, un pasteur canadien qui s'appelle Dominique Anger a écrit un article qui s'appelle « Un Noël renversant ». Alors il va parler de l'histoire des bergers qui se trouve dans Luc chapitre 2. Et il va dire « Noël, c'est renversant. Le roi éternel naît dans la plus grande humilité, dans la ville de David. Dieu a abaissé le roi venu pour sauver ceux et celles qui acceptent de s'abaisser. » Alors oui, Dominique Anger parle ici de berger, mais on peut prendre aussi cette image pour les mages. C'est ça le sens de Noël. Un roi qui s'abaisse, qui vient naître dans une étable, qui ne regarde pas son éternité comme une proie arrachée, mais qui vient se dépouiller lui-même, pour que des personnes, comme ces mages, puissent être relevées. Mais la présence de ces mages, la présence de ces bergers, lors de ces moments de la naissance, nous questionne sur les absents de la scène. Et je voulais donc continuer par cette image. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce personnage? Alors, c'est écrit. L'animation est terminée. Il s'agit d'Erwin Rommel. Alors, Erwin Rommel, c'est l'un des principaux généraux allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un grand stratège qui a permis à l'Allemagne de gagner de nombreuses batailles, notamment en Afrique du Sud. En fin de l'année 1943, début 1944, il est réquisitionné pour s'occuper de la Normandie, le nord de la France. Et en tant que stratège militaire, il se dit que le seul moyen pour perdre la guerre, c'est que les Alliés arrivent en France par les berges, par les côtes de la Normandie. Et il va dire cette citation, qui est assez connue dans l'histoire, vous pourrez regarder l'article Wikipédia, qui va dire que si vous pensez qu'ils vont arriver dans un beau temps en empruntant un itinéraire qu'on s'imagine le plus simple, le plus prévisible, alors vous vous trompez. Ils vont venir alors que le temps sera épouvantable. Ils vont venir ici, en Normandie. Lui, Erwin Rommel, il savait que le seul moyen pour les Alliés de remporter la guerre, c'était de venir par ces côtes de Normandie. Et donc, pendant des mois, il va préparer cette invasion. Il va faire installer des fortifications sur les plages de la Normandie. Il va faire installer toutes sortes de dispositifs pour pallier à ça, pour que si les Alliés arrivent, eh ben, au moins ils seront prêts. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Le 5 juin, une grosse tempête arrive. Alors, on est en Normandie, donc c'est un tous les jours là-bas. Mais même, il dit, bon, c'est le 5 juin, il fait très moche, je vais en profiter, parce que le 5 juin 1944, c'est aussi l'anniversaire de sa femme. Et donc, le 5 juin 1944, il va retourner en Allemagne pour célébrer avec sa femme son anniversaire et en profiter pour aller voir Hitler, pour lui demander de nouvelles infanteries pour protéger encore mieux la plage. Le lendemain, le 6 juin 1944, alors que lui l'avait déjà prédit pendant des mois et des mois, les Alliés débarquent en Normandie. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Erwin Rommel, il avait passé des mois à préparer cette invasion, et pourtant, ben, il l'a manqué. Il était tellement préoccupé par autre chose à ce moment-là, donc l'anniversaire de sa femme, qu'il a raté cet événement qu'il avait lui-même prédit. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle d'Erwin Rommel? Parce qu'en fait, on est parfois souvent à l'occasion de Noël comme Erwin Rommel. On sait que l'événement de Noël va arriver. On s'y prépare pendant des semaines, des mois. Mais quand ça arrive, on passe totalement à côté. Parce que qui est-ce qu'on s'imagine voir aux côtés de Jésus? Les rabbins, les maîtres de la loi, les spécialistes. Sauf que qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils sont, eux? Eh bien, ils sont restés à Jérusalem. Alors qu'ils connaissent la loi, c'est lorsqu'on leur a demandé, ils savaient du tac au tac. Ils ont cité Michée 5, ils savaient que Jésus allait venir à Bethléem. Mais ils sont restés à la capitale. Ils sont restés dans leur religion, ils sont restés dans leur synagogue. Et ils ne sont pas auprès de Jésus. Vous voyez, ça fait toute leur vie qu'ils se préparent à l'arrivée de ce Messie, de ce roi qui viendrait renverser Rome et qui viendrait les libérer. Mais au moment même où il arrive, il passe totalement à côté de ça. Et que ça soit aussi un avertissement pour nous aujourd'hui. On peut, en apparence, un peu comme ces rabbins, ces spécialistes, être chrétien et faire partie du peuple de Dieu. On peut, en apparence, aller à l'église tous les dimanches matin. Et pourtant, on peut passer à côté du message central de Noël. Si, à aucun moment, comme ces mages, on se place devant Christ et on courbe les chines comme ils l'ont fait. Tu peux passer à côté de Noël si tu es plus préoccupé comme eux, par ta religion, par ton statut, plutôt que par ton roi. On peut sembler très proche de Dieu et pourtant manquer de le rencontrer personnellement. On peut préparer Noël et pourtant totalement passer à côté. Ça puisse être aussi un avertissement pour nous, qu'on ne puisse pas être comme les absents de la scène pour Noël. Revenons donc à nos mages. Qu'est-ce qu'ils vont faire? partie peut-être la plus connue du texte, c'est qu'ils vont arriver et donc ils vont offrir des cadeaux. Alors souvent, c'est vrai qu'on s'arrête très rapidement sur la valeur de ces cadeaux. On sait que ce sont des cadeaux qui valent cher. Et on dit la conclusion, oh bah, ce qu'il faut, c'est donner un cadeau qui vaille cher à Christ. Ce que là, on a de meilleur. Or, c'est pas forcément faux. Mais si on prend le temps de regarder la signification des cadeaux, on se rend compte que c'est bien plus important que cela. Il faut aussi savoir que ces mages étaient sûrement très riches. S'ils peuvent se permettre des voyages comme ça, c'est qu'ils ont les moyens et que ce n'est pas ces cadeaux-là qui allaient les ruiner. Mais ce qui est important, c'est surtout la signification de ces cadeaux. Le premier cadeau, c'est de l'or. Est-ce que quelqu'un sait pour quel type de personne on offre de l'or ? On offre, je l'ai entendu, ouais, on offre normalement de l'or à un roi. Savoir que même à l'époque, l'or c'est déjà très cher et on n'offre pas de l'or à n'importe qui. Les seules personnes à qui on offre de l'or, c'est même pas les grands prêtres ou autres, c'est un roi. Ce qu'ils sont en train de dire, ces mages, c'est qu'ils sont en train d'offrir de l'or à un roi. Ou un dieu. Deuxième cadeau, hop, de l'encens. Alors il y a quelques semaines, on a eu des études sur le tabernacle. Et est-ce qu'on se rappelle qui était utilisé par... À quelle occasion on utilisait de l'encens ? Vas-y, Elliot. Oui, tout à fait. C'était utilisé par les prêtres lors des prières. Rappelez-vous de l'autel des encens. Ce que ce cadeau est en train de dire, c'est que ce nouveau-né qui est devant eux, bah, c'est un prêtre, c'est un souverain sacrificateur, c'est un médiateur. C'est un intermédiaire avec Dieu. Hébreux chapitre 7 va nous dire que ce souverain sacrificateur, Christ, n'a pas besoin d'offrir des sacrifices, car il s'est offert lui-même. La personne qui est devant eux, c'est un roi, c'est un prêtre. Et enfin, de la myrrhe. De la myrrhe, c'est le dernier cadeau, normalement, que l'on offrirait à Noël. S'il fallait diriger la liste des 6 cadeaux parfaits, la myrrhe, ça ne serait jamais là-dedans. Pourquoi ? Parce que la myrrhe, est-ce que vous savez dans quelle occasion c'est utilisé ? C'est utilisé pour l'embaumement des cadavres. C'est utilisé pour la mort, pour le sacrifice. Et ça nous rappelle que Jésus est venu pour mourir, ou comme il le dira dans Marc chapitre 10, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Roi, prêtre, sacrifice. Les mages ici, ils ont proclamé le ministère de Jésus. Et ces trois aspects-là, roi, prêtre, sacrifice, c'est quelque chose qui va être redondant, qu'on va revoir tout au long de cet évangile. Que ce soit dans les tentations de Jésus, que ce soit dans ses enseignements, que ce soit dans les prophéties qui vont accompagner sa mort à la croix. Roi, prêtre, sacrifice. Les trois aspects du ministère de Jésus. Mais surtout, et ils ne le savent pas, c'est qu'en venant ici, ils vont aussi réaliser des prophéties de l'Ancien Testament qui vont dire que des rois de Séba vont venir offrir des présents, qu'ils viendront de loin de Séba, donc en Orient, pour offrir de l'or et de l'encens et publier des louanges à l'Éternel. Voici ce qu'ils sont venus offrir à Jésus. Et toi alors, qu'est-ce que tu veux offrir à Jésus, si tu devais le faire ? C'était une question rhétorique. Alors, je vous parlais tout à l'heure que Noël, c'est une transformation. Mais en quoi ça nous montre que là, ils ont été transformés ? Super, ils ont donné des cadeaux formidables. On voit qu'ils ont compris qui était cette personne devant eux, mais qu'est-ce qui nous montre qu'ils ont été transformés ? C'est pour ça que je voulais qu'on prenne un peu de temps pour regarder ce dernier verset de ce texte. Le verset nous dit « Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner à Hérode, je vous passe les détails, mais Hérode avait prévu de faire tuer ce nouveau-né, c'est ce qu'on voit à la suite du nouveau texte, du texte dont on ne va pas forcément parler ce matin, mais ils ont été avertis de ne pas le faire, mais surtout la dernière partie de ce verset qui nous dit « Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin ». ils repartirent le pays d'une autre manière, nous dit une autre version. Alors, si on prend le texte original en grec, c'est vrai que le mot qui est utilisé ici, c'est chemin. C'est vraiment le mot chemin qui est utilisé. Mais pour moi, je ne peux m'empêcher que l'auteur va ici utiliser un double sens. C'est comme si le mot chemin ici avait également la connotation d'un autre état d'esprit, d'une autre perspective, d'une autre manière. C'est exactement d'ailleurs comment nous le disent certaines versions. Les mages sont repartis avec une vision différente de la vie, d'une autre manière. Ils sont repartis en ayant goûté à cette grâce manifestée par l'invitation de Dieu. Ils sont repartis en ayant goûté à cette révélation de qui est cette personne-là, ce Fils de Dieu, par sa parole. Et ils sont repartis en ayant goûté à cette grâce qui transforme des cœurs, qui transforme des vies. Ils sont repartis par un autre chemin. Et si c'était ça aussi, le message de Noël, l'histoire d'une transformation ? Un Noël qui nous fasse repartir d'une autre manière, par un autre chemin. Et c'est pour ça qu'avant de conclure, je voulais qu'on prenne ces quatre points. Ces quatre points de conclusion très rapidement. Puissions-nous aussi, dans un premier temps, répondre à son invitation. Le cadeau de Noël, ce n'est pas un cadeau personnalisé, c'est un cadeau qui s'adresse à chacun d'entre nous. Si des gens aussi loin des mages ont pu recevoir cette invitation, alors toi aussi, tu le peux. Toi aussi, réponds à cette invitation. Il est possible d'être éloigné de lui, d'être une abomination aux yeux de Dieu, et pourtant d'entrer en relation avec lui. Alors puissions-nous, comme ces mages, répondre à son invitation. Deuxième chose, profitons de ces fêtes encore plus. Et je voulais dire, profitons-en chaque jour de l'année pour louer et adorer Dieu. Puissons-nous le louer par nos chants, par nos prières, en se rappelant que ce cadeau semblable, ce cadeau qu'il nous a fait, abaissons-nous pour qu'il soit élevé, de la même manière qu'il s'est abaissé pour nous relever en premier. Troisième chose, si ce texte ne nous en parle pas, c'est quelque chose qu'on peut appliquer directement, partage ce cadeau. Si cet évangile commence en nous disant aux nations, à ces personnes d'Orient, venez et admirez, il va terminer en disant dans Matthieu 28, va et raconte. Soyons donc des témoins, des ambassadeurs de cette merveilleuse nouvelle. Je sais que pour Noël, des fois, c'est pas toujours facile. Certains vont retourner dans leur famille. Et on sait que ces moments familiales sont pas forcément les plus simples. On côtoie pas forcément des familles chrétiennes. Mais qu'on puisse aussi profiter de ces moments-là pour être des témoins, des ambassadeurs de cette merveilleuse nouvelle, de ce merveilleux cadeau semblable à nul autre. Puissions partager ce cadeau aux autres. Enfin, dernier point. Fixons nos regards vers la croix. Parce que si Noël est possible, si aujourd'hui on peut le célébrer, c'est uniquement par la croix. À Noël, Jésus est venu avec lui pour but de nous donner le meilleur des cadeaux. On ne le voit pas ici dans le texte, il faut lire la suite de cet évangile. Cette fois-ci, ce n'est pas un cadeau éphémère, un cadeau qui dure une semaine, des mois, des années, mais bien un cadeau qui dure une éternité, un pardon éternel, une relation rétablie avec Dieu et l'assurance, l'espérance d'une éternité avec lui. Et comment il va le faire? Comment il va nous offrir ce cadeau-là? Au prix de sa vie, comme on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53. Car Noël, finalement, ce n'est pas simplement une question de présent sous le cadeau, sous le bois, mais de la présence de Jésus sur le bois, qui est la croix. Noël, ce n'est pas une question de présent sous le sapin, sous le bois, mais la présence de Jésus sur le bois, qui est la croix. Et je voulais terminer avec cette citation que j'ai trouvée de Benjamin Higgins, qui disait que le plus beau cadeau de Noël ne se trouve pas au pied d'un sapin, mais il se trouve sur une croix. C'est le don d'un sauveur qui est né pour mourir et qui est mort pour sauver. C'est le don d'un sauveur qui est né pour mourir et qui est mort pour sauver. Et si c'était ça finalement, ce cadeau semblable à nul autre? Le don d'un sauveur, né pour mourir et mort pour sauver. Comprenons que l'expérience de ces mages, ça peut également être la nôtre. Alors puissions-nous, comme eux, répondre à son invitation, à l'invitation de Dieu. Cette invitation, elle est gratuite. Elle est offerte à tous, elle n'est pas personnalisée. Elle est offerte à des gens aussi éloignés qu'eux. Puissions-nous, comme ces mages, également ne pas nous arrêter aux signes, aux miracles, ne pas simplement aller à l'église, mais aller jusqu'au Fils de Dieu, dans sa parole. Puissions-nous, comme ces mages, nous laisser transformer par Christ, et comme eux, repartir par un autre chemin. Je vais prier, on va pouvoir passer à la suite. Oui, Père, merci pour ce texte. Et c'est vrai qu'avec Noël qui arrive, on veut se rappeler de ce message extraordinaire. Que tu m'as tellement aimé, que tu as tellement aimé le monde, que tu as donné ton propre Fils unique. Tu l'as abaissé, tu l'as fait souffrir et tu l'as fait mourir, afin que par lui j'aie ton pardon et une vie éternelle à tes côtés. Belle, Père, qu'elle rappelle que ce que tu attends de nous, c'est simplement que nous puissions répondre à ton appel et que nous puissions nous approcher de toi par la foi. Nous voulons nous rappeler de cette histoire durant ces fêtes et nous voulons vraiment te prier que tu puisses la rendre tangible dans nos vies. Que à toi, comme ces mages, puisse être notre adoration et nos louanges au roi des rois. Amen.